France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ce bilan meurtrier au Mali. L'attaque d'un village dans le centre du pays, dans la nuit de dimanche à lundi, a fait 35 morts, selon un ministre malien. 95 morts, selon des personnes sur place. 19 habitants sont également portés disparus. Le gouvernement met en cause des hommes armés soupçonnés d'être des terroristes. Au Burkina Faso, ce sont 19 personnes qui ont été retrouvées mortes après une attaque dans le nord du pays. Une tuerie massive, l'une des plus graves récemment dans le pays. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal de 6h30. Un émissaire américain doit se rendre dans les prochains jours au Soudan. Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique veut y demander à l'armée au pouvoir et aux représentants de la contestation de reprendre le dialogue ensemble. Hier, un chef rebelle dit avoir été expulsé au Soudan du Sud. Des enfants de djihadistes français ont été remis à une délégation française hier, 12 au total. Les autorités locales kurdes en Syrie les avaient envoyés dans des camps de déplacés au nord-est du pays. Dans un grand état de fatigue, ils sont arrivés hier à l'aéroport de Villacoublay, près de Paris. Le déficit de la sécurité sociale va se creuser de nouveau cette année. Fini donc l'espoir d'un retour à l'équilibre en 2015. La commission des comptes table maintenant sur un déficit entre 1,7 et 4,4 milliards d'euros. Elle prend en compte la réalité du ralentissement économique et de chères concessions aux gilets jaunes ces derniers mois. Soulignons enfin que le parti Les Républicains va tenir ce soir un bureau politique, le premier du genre depuis la démission de Laurent Wauquiez à la tête du parti, depuis également le départ de Valérie Pécresse. Cette haute autorité du parti Les Républicains est composée d'une petite dizaine d'élus et de juristes. Elle va notamment proposer aux membres du bureau d'organiser l'élection du prochain chef du parti en octobre prochain.
Chaque jour à 10h, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Qu'est-ce qu'un père ? À quoi sert-il ? Est-il forcément un homme ? Détient-il toujours l'autorité ? Faut-il s'en émanciper ? Père rêvé ou désacralisé, débat sur le patriarcat et la procréation assistée, retour aux sources du père de Fiodor Karamazov au Roi Lear, de Freud et Lacan à Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, mon invité ce matin est un photographe et cinéaste américain qui va bientôt fêter ses 92 ans, mais il fait beaucoup moins, au moins 20 ans de moins. Jerry Schalzberg est en France pour une rétrospective de ses photos, car avant d'être cinéaste, il était un photographe de mode notamment, et ses photos sont exposées en ce moment et ce jusqu'au 1er septembre au château de Chamarandes.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Interview qui va être traduite par Ona Seller. Bonjour Jiri Schatzberg.
Hello, Toufik.
Bonjour Toufik.
Comment avez-vous commencé votre métier de photographe?
J'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, c'était des fourreurs, et j'ai détesté cela en fait. Et donc je prenais mes déjeuners dans un magasin de photos, en fait, où ils vendaient des appareils photos. Et je me perdais là-dedans, je passais plus de 2 heures, je rentrais en retard à l'usine, et mon père me disait, mais comment est-ce que tu oses prendre 2 heures pour déjeuner? Moi, je savais même pas que 2 heures c'était écoulé, mais finalement, j'ai travaillé pour le New York Times, en tant qu'assistant photographe. Je ne savais pas vraiment en quoi ça consistait, mais j'ai appelé une personne que je connaissais, je lui ai raconté mon histoire. Il a ri, il m'a dit, viens, je vais voir ce que je vais pouvoir faire pour toi.
Quelle histoire vous lui avez raconté?
Je lui ai dit que je n'y connaissais rien à la photo, que je n'avais pas d'appareil photo moi-même. Et quand j'étais très jeune, j'avais un petit appareil photo jouet en plastique, mais je ne savais pas non plus ce qu'était un assistant, mais j'aimerais bien qu'il m'explique. Donc, dès musique, il m'a expliqué, je lui ai dit, c'est ce que j'aimerais faire. Il a ri, il a dit, bon, allez, viens, on va voir ce qu'on peut faire. Il m'a envoyé à un studio de mode, incroyable. Et quand je suis entrée, c'était comme tomber dans un trou de lapin, en fait. Il y avait du blanc, du noir, une touche de rouge. Voilà, c'était pas l'image que j'avais du Bronx.
Le Bronx où vous êtes né, où vous avez grandi?
Oui. Je suis né à Manhattan, mais j'ai grandi dans le Bronx.
Votre carrière de photographe, Jiri Schatzberg, a commencé avec quand même l'âge d'or de la photo.
Oui, c'est vrai.
La fin des années 40, le début des années 50.
J'ai commencé à la fin des années 40, oui, dans les années 50. C'était tout à fait différent. C'était bien plus élégant, sophistiqué. Et ce que je voulais avoir plus de liberté, que les gens ressemblent à des vraies personnes.
Votre passion allait plus vers le sujet photographié, Jiri Schatzberg, ou bien c'était toute la magie du développement d'une photo qui vous intéressait dans ce métier, dans votre passion naissante pour la photo?
Ça fait partie de ça, effectivement, mais je ne savais vraiment pas ce que je voulais. Il fallait que je mûrisse un petit peu. Je n'ai pas commencé avant l'âge de 27 ans. Quand je voyais une bonne photo, j'étais capable de dire « j'aime cette photo », mais je ne savais pas moi-même comment prendre une bonne avant de trouver ce travail. Et on m'a donné la chance, l'opportunité, après une journée de travail, je travaillais jusqu'à 6 heures, 8 heures du soir parfois, et j'avais le droit d'utiliser le studio après ces horaires-là. Donc il y avait un assistant aussi qui m'enseignait un petit peu des choses. Et il y avait un moment où les jeunes femmes voulaient devenir des mannequins. On pouvait prendre des photos d'eux. C'était une bonne expérience pour elles et pour moi également. Donc on fait beaucoup d'erreurs à ce moment-là, mais on apprend également. Finalement, quand j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec ce photographe, j'ai senti que j'avais assez d'expérience et je cherchais des petits boulots à côté. Et j'ai saisi la chance de travailler à Vogue après 6 mois. Et m'a offert un travail.
Enfin, saisir la chance, comme vous dites, Jiri Schatzberg, pour travailler pour un journal comme Vogue, c'est vite résumé. Comment on vous a recruté? Est-ce que c'est vos travaux qui les ont persuadés de vous recruter?
Non, en fait, après ces 2 ans et demi d'apprentissage avec les appareils photo, les différents trucs et les différentes façons de photographier les femmes, eh bien, j'ai construit un portfolio. Enfin, je me suis fait un book et je l'ai montré à Vogue et il a été impressionné. Il a vu que j'avais un petit truc en plus, différent des autres. Et quand je suis partie, j'ai dit à la secrétaire, si je n'ai pas de nouvelles dans 2 ou 3 mois, est-ce que je peux me représenter? Il m'a dit, si vous n'avez pas de nouvelles dans 2 ou 3 mois, vous pouvez revenir. En fait, je suis à peine retournée à mon studio que j'ai reçu un appel. Donc, c'était pas un job formidable, mais c'était un job.
Alors, Jiri Schatzberg, vous avez dit qu'il y avait un petit quelque chose qui a poussé Vogue à vous recruter. C'est quoi ce petit quelque chose, s'il fallait le définir dans votre travail de photographe?
Je crois que mes photos... En fait, moi, ce que j'aime, c'est la vérité. Je n'aime pas quand c'est très posé. J'aime prendre des photos de ces personnes formidables et les rendre réelles. Ce n'est pas juste une question de prendre une pose avec les bras en l'air, etc. Je veux des personnes réelles, des vraies personnes. Et j'ai une photo de Bob Dylan, ma plus célèbre photo de lui. En fait, il se cache le visage.
Ce portrait qui a fait le tour, effectivement, c'est un portrait de Bob Dylan très, très connu.
La plupart des gens diraient, veuillez dévoiler votre visage, montrer votre visage, mais moi, non.
Jiri Schatzberg, grand photographe américain avant de devenir cinéaste, c'est une rétrospective de ses travaux qui sont exposés en ce moment au domaine départemental de Chamarande, enfin le château de Chamarande, c'est dans l'Essonne, à 45 minutes de RER de Paris. Et quand je dis une rétrospective, c'est parce qu'on peut voir vos photos du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire il y a un ordre chronologique. Quand vous voyez ces photos, Jiri Schatzberg, vous vous dites j'ai évolué ou j'ai changé de point de vue ou ce sont les sujets qui ont changé et pas votre manière de les voir, de les prendre en photo.
Quand j'ai commencé à être à l'aise, j'ai pris mon appareil tout le temps et je regardais un petit peu partout autour de moi.
L'idée, c'était de sortir des studios où vous avez fait votre carrière dans la photo de mode.
Je crois que quand j'ai commencé à faire un film, c'est là que j'ai quitté le studio, en fait. Avant, j'ai travaillé pendant 11 ans et j'ai toute une archive que j'ai créée de photos.
Jerry Schatzberg, on parle de votre travail en tant que photographe. Avant d'arriver à cette période où vous allez passer au cinéma, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux métiers? Est-ce que quand vous étiez en studio, quand vous preniez des photos de mode aussi bien pour Vogue que pour Life Magazine, vous étiez dans le même rôle qu'un metteur en scène, c'est-à-dire qu'il fallait s'occuper des lumières, de l'éclairage, du sujet, de choisir l'angle que vous vouliez prendre pour raconter une histoire?
Oui, c'est l'éducation que j'ai reçue grâce à l'expérience et les modèles que j'ai utilisés. Les mannequins n'étaient pas toujours aussi bon. C'était des mannequins souvent débutants, en fait. Donc, ils avaient besoin de photos à tout début de ma carrière de photographe, en fait. Et c'était un échange entre modèles débutants et moi. Donc, beaucoup de gens font ça. On commence avec un assistant. On aide, on donne un coup de main. Et il y avait un mannequin très célèbre à l'époque que j'ai rencontré parce qu'elle travaillait pour le photographe que j'assistais. Et elle m'aidait toujours. Elle me disait, si tu as besoin de quelqu'un qui pourrait faire des photos pour toi, qui pourrait poser pour toi. Elle m'a toujours aidée parce qu'on s'aimait bien. Et elle a été l'inspiration pour mon premier film. Son nom est Anne Sainte-Marie. Et elle était, c'était un mannequin exceptionnel.
Les photos qu'on voit, les photos qui vous ont rendu célèbre, Jerry Schatzberg, par exemple, ces photos de mode, ce ne sont pas des photos classiques, hein, ce sont des moments volés, hein, c'est-à-dire on peut voir une femme en train de regarder par terre pendant le défilé Chanel, on a les backstage beaucoup plus que les modèles bien centrés. Est-ce que ces photos-là, ce sont des photos volées ou sont des photos que vous avez mis en scène, que vous avez guettées?
Both. Les deux. Parfois, j'ai une idée, comme cette photo d'une petite personne qui regarde à travers la fenêtre. Et moi, je me tenais à l'extérieur, en fait. J'attendais Cooker, le mannequin de la maison Dior, et j'ai vu cette fenêtre très rococo. Et ça m'a attiré. Donc j'ai pris une photo de la fenêtre. Et lorsque je l'ai prise, je me suis dit qu'il manquait quelque chose, peut-être qu'il manque un peu de vie. Donc je me suis dit, bon, je vais attendre que quelqu'un passe devant et je prendrai une photo de la personne. Un homme est passé devant et il a juste jeté un coup d'œil à la fenêtre. Et donc ça a apporté un peu de vie à cette photo. Puis j'ai regardé un peu plus loin, j'ai vu cette personne de petite taille qui descendait la rue. Et je me suis dit, bon, quand elle va passer passer, je vais prendre à nouveau une photo pour montrer la différence. Certaines personnes ont de la chance dans la vie, d'autres pas, montrer ça. Elle est passée, elle a regardé à la fenêtre et puis elle est restée là et c'est la photo qu'on a. C'était un moment remarquable. Donc je n'avais pas ça à l'esprit au départ, mais j'ai eu la chance d'être là au bon moment.
Est-ce qu'on peut dire, Jerry Schatzberg, que pour vos photos, le développement de la photo, le recadrage de la photo, c'est à peu près l'équivalent du montage au cinéma, c'est-à-dire en d'autres...
Oui, j'en fais pas trop.
Vous recadrez pas vos photos?
Oui, un petit peu, mais pas beaucoup. C'est mon œil qui voit les choses d'une certaine manière. Et je fais beaucoup de choses dans la rue. Je ne change rien. Si je vois quelque chose au sol, par exemple, je vais contourner pour voir l'angle que je préfère. Je regarde la composition et la lumière également. Voilà, c'est tout. Ce qui m'importe vraiment que je vais...
À travers votre rétrospective actuellement au domaine départemental de Chamarande, Jerry Schatzberg, c'est aussi l'histoire de la mode qu'on voit défiler, puisque vous étiez le photographe de la mode à New York dans les années 50. Mais il n'y a pas que ça. À certains moments, il y a l'éruption du réel dans le monde de la mode, à moins que ce soit le contraire. J'aime bien cette photo que vous avez là sous les yeux, où vous avez sans doute demandé à un vrai mannequin de descendre... Dans la rue.
Ça, c'est quelque chose que j'avais pensé. En fait, à un moment, ça pouvait être une fête de fin d'année dans un lycée, et c'était tard le soir. On savait qu'il y avait des restaurants là-bas qui étaient ouverts toute la nuit parce que ces gens travaillaient toute la nuit. Et quand je suis arrivée avec mes deux mannequins en tenue de soirée,
un homme et une femme d'ailleurs,
et on les a mis au centre, l'homme à l'extérieur est juste passé et ça a rendu la photo telle qu'elle est.
Et donc on a un couple glamour au milieu de travailleurs qu'on voit dans leur...
C'est le marché du poisson en fait.
Donc on voit bien ces poissonniers de l'époque, c'est-à-dire avec mal habillés ou en haillons, on peut le dire. On sent qu'il y avait une crise dans ce New York-là. C'est pour jouer avec le contraste que vous avez fait cette photo, Jerry Schatzberg, ou...
Je veux toujours jouer sur les contrastes. Oui, et appuyer les contrastes. J'ai pris une photo de Andy Warhol, assis, très calme, mais en fait à ses pieds se trouve un petit sac sur lequel est inscrit Aer Lingus. Et j'ai voulu associer Andy avec Aer Lingus. Personne ne l'aurait fait à moins de travailler.
Vous n'avez pas pris seulement en photo Andy Warhol, mais aussi les jeunes débutantes Catherine Deneuve et Faye Dunaway. Vous avez aussi pris en photo Fidel Castro dans un drôle de portrait. Il a une drôle de mine. C'est une photo assez exceptionnelle du leader cubain. Et puis bien sûr, vos photos de Bob Dylan. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Bob Dylan, pris en photo par Jerry Schatzberg. Alors, toute cette série de photos qu'on connaît bien sûr de Bob Dylan, vous allez pouvoir les retrouver dans cette rétrospective de la carrière du photographe Jerry Schatzberg en ce moment et jusqu'au 1er septembre au château de Chamarande. Est-ce que c'est d'abord une histoire d'amitié qui vous a lié à Bob Dylan?
Au studio, lorsque vous travaillez, on passe de la musique habituellement. Souvent, j'écoutais du Dylan et puis d'autres musiciens. En fait, j'avais deux amis. Une femme qui était photographe aussi et Nico du Velvet Underground. Et chaque fois que je les rencontrais, je leur disais, ils me demandaient, est-ce que tu as écouté Bob Dylan? Je dis oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vraiment écouté. Et je dis, je vais le faire. Et un jour, Nico est venu à mon hôtel à Paris, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, tu as enfin écouté Bob Dylan? J'ai dit, Nico, écoute, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait pour la première fois, et c'est la première fois que j'ai réalisé la poésie qu'il avait. Et ça m'a tout de suite plu. Et donc j'étais au studio de photo, je photographiais un autre musicien et il y avait un disc jockey rock, et un journaliste. Et ils discutaient, ils avaient parlé avant, et j'ai entendu ça, et ils m'ont dit, je lui ai dit, la prochaine fois que vous le voyez, dites-lui que j'aimerais bien prendre une photo de lui, pensant que ça n'arriverait jamais. Mais ils m'ont dit, ok. Et puis je me suis dit, bon, on verra bien ça. Et en fait, le lendemain, j'ai reçu un appel de sa femme. Et elle a dit, Bob voudrait, il paraît que tu veux prendre une photo. J'ai dit, oui, absolument. Et en fait, sa femme est la première femme qui m'avait parlé de lui. En fait, elle était tombée amoureuse de lui il y a 5 ans, elle l'avait suivi, elle l'avait épousé. Je lui ai dit donc qui j'étais, et le journaliste lui a dit également qui j'étais. Et quand j'y suis arrivée, c'était déjà comme un ami, il m'a dit assieds-toi là, il a joué un petit peu de ses nouveaux morceaux, et on est devenus amis, maintenant on est amis depuis longtemps.
Les plus belles photos de jeunesse de Bob Dylan, on les connaît, et la plupart sont justement signées par vous, Jiri Schatzberg. Donc Bob Dylan écrivant assis devant son piano, Bob Dylan enregistre avec l'harmonica, les lunettes noires, mais il y a aussi cette fameuse photo. Il se cache les yeux, on le voit pas, on voit pas ses yeux, on voit juste sa cigarette, on voit sa tignasse. Cette photo de Bob Dylan, elle est très très connue. Est-ce que c'est une photo mise en scène par vous, Jiri Schatzberg, ou là c'est un moment de vérité que vous avez capté? Vous étiez là au bon endroit au bon moment.
Tous les deux très relaxés, très détendus. En fait, il se masquait pas les yeux, il faisait quelque chose, mais j'ai saisi l'instant. En fait, d'autres photographes lui auraient dit, écoutez, veuillez baisser votre main, mais moi j'ai aimé ce moment. Parce que même si son visage est caché, on reconnaît que c'est Bob Dylan.
Et puis, bien sûr, Mick Jagger, Aretha Franklin, Fade Away. Ces photos-là, est-ce qu'elles témoignent aussi de votre attachement à la musique, Jiri Schatzberg, ou ce sont des rencontres new-yorkaises qui ont fait que vous avez pris ces clichés qui, aujourd'hui, sont connus mondialement?
C'est un peu de tout ça, en fait, mais on m'a demandé de prendre des photos de Catherine de Neuve. C'était le magazine Esquire, donc je suis
arrivée.
Alors
qu'elle est toute jeune, hein?
Je crois qu'elle avait 16 ans. Elle allait chez le coiffeur, était en chemin pour le coiffeur, et je lui ai demandé, est-ce que je peux venir également? Alors ça n'apparaît pas dans ce catalogue, mais la première photo que j'ai prise d'elle, elle avait ses cheveux mouillés avec une cigarette au coin de la bouche, et on est devenus amis à partir de là.
Est-ce que ces photos, elles sont publiées après accord des artistes ou des mannequins? Est-ce que Andy Warhol a demandé à voir vos travaux avant publication, ou Bob Dylan, ou même Charlotte Rampling?
Certains oui et d'autres non. Ça dépend, vous savez, Charlotte. Pour cette photo en particulier, je l'ai prise en Normandie quand je suis allée faire un shooting de mode avec Catherine et Charlotte, et même le magazine de mode avait un cliché d'elle, enfin devait avoir une décharge. Mais moi, on n'a pas insisté plus que ça pour signer.
Et puis cette photo très très célèbre de Frank Zappa avec ses couettes, ça aussi, c'est lui qui était venu comme ça, Jiri Schatzberg, ou c'est vous qui lui avez proposé de jouer avec sa tignasse?
Il a vu la photo que j'avais prise des Rolling Stones en vêtements de femme, et en fait il m'a appelé, il ne me connaissait pas, il m'a dit, j'aimerais bien faire une couverture d'album avec la plupart de mes musiciens musicien habillé en femme, que la couverture rappelle Sgt. Pepper's. Donc, au lieu d'avoir des fleurs partout au sol, j'aimerais que ce soit des détritus, voilà, des choses pas acceptables socialement, normalement. Alors, ça, ça a été pris après la photo principale. En fait, j'ai fait la couverture de l'album d'abord. Et quand j'ai vu cette photo, quand il a vu cette photo, il l'a adoré. Ça, c'est lui.
Ça, c'est lui. Vous avez pris en photo notre collègue Michel Simon, avec qui vous entretenez une longue histoire d'amitié, et Michel Simon, dans un texte de présentation de votre rétrospective, Jerry Schatzberg rappelle que vous faites partie des rares metteurs en scène qui ont été d'abord des photographes professionnels. Alors, bien sûr, il cite pour la France Chris Marker, mais il y a aussi Agnès Varda pour la France, il y a aussi le Turc Nuri Bilge Ceylan, et aux États-Unis Stanley Kubrick et vous-même. Et puis Jerry Schatzberg, si vous êtes connu aussi, c'est parce qu'avec L'Épouvantail, ce grand film des années 70, avec un Gene Hackman vraiment excellent, top de sa forme, vous avez marqué le renouveau du cinéma américain à partir de New York. Le film a obtenu la Palme d'Or. Aujourd'hui, vous vous considérez comme raconteur d'histoire à travers la photo et à travers le cinéma, ou vous êtes plutôt fidèle à votre premier métier, qui est celui de photographe qui, de temps en temps, fait des films?
Je crois que les deux ont la même importance pour moi. Si je vois quelqu'un que j'aime beaucoup, j'ai envie de prendre une photo. Il faut plus de temps, bien sûr, pour mettre un scénario sur pied et faire un film.
Vous les aimez tous, les gens que vous avez photographiés, Jerry Schatzberg?
Non. Je me souviens que j'ai fait une photo d'un producteur de Broadway et j'aimais bien lui parler parfois pendant une demi-heure, qu'il se détende un peu. Mais on parlait, donc il était dans mon bureau et puis il dit, j'ai l'impression d'être chez le dentiste. Alors je lui dis, pourquoi je vous fais peur? Il dit, non, je n'ai peur de personne. Et voilà, c'est pas quelqu'un que j'aimais tellement. C'était pas sympathique, mais certaines des meilleures photos prises de lui ont été prises à ce moment-là. Mais voilà, il n'en a pas voulu d'ailleurs.
Il est attendrissant aussi, Fidel Castro, sous votre œil. Vous l'avez aimé?
Oui, beaucoup.
Vous l'avez rencontré où?
J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il avait une femme. Elle avait 60 ans. On s'est rencontrés. Donc, elle était à Cuba. Elle m'a appelée. Elle m'a demandé si j'avais envie d'aller à Cuba et prendre des photos de Fidel Castro. Donc, je lui ai dit oui, bien sûr. Donc, j'y suis allée. Et j'ai porté un costume noir. Tout le monde au bas de l'avion était armée, et c'était une expérience intéressante, mais je suis devenue amie avec tous ces gardes du corps. Et on a passé un moment merveilleux. Je l'ai avec son cigare, avec ses armes, avec son frère. Et c'était une expérience incroyable.
Alors, ce cliché de Fidel Castro, les photos de Dylan, le portrait de la jeune, la très jeune Catherine Deneuve, ou les fameuses photos de Frank Zappa sont à retrouver à la page de l'émission Le Réveil Culturel, en passant par France Culture. La rétrospective des photos, des travaux photographiques de Jerry Schatzberg, c'est jusqu'au 1er septembre au château de Chamarandes. Et maintenant, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, la partager, la podcaster, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Bouchard, avec ce matin la technique Claude Nior, et cette interview de Jerry Schatzberg a été traduite par Ona Seller. Merci beaucoup Jerry Schatzberg d'être passé ce matin, ça a été un honneur pour moi de vous recevoir.
This morning it was an honor to see.
Thank you, Tufik. It was a pleasure.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent
Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce numéro d'été, un grand dossier sur la beauté et ses énigmes. La beauté est-elle intemporelle? Le lait peut-il être beau? Papier convoque artistes, philosophes, écrivains et architectes. À découvrir également un entretien exceptionnel avec Jean-Luc Godard, une sélection de 35 films pour comprendre notre époque et un focus sur la Bretagne, jadis au centre du monde. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie. Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Fin d'une époque chez Apple. La bibliothèque sonore iTunes va rendre l'âme, emportée par la vague du streaming. Début d'une nouvelle ère pour la radio, les podcasts se multiplient et révolutionnent l'écoute audio. Alors podcast, streaming et je remets le son, on en débat ce mardi dans Du grain à moudre sur France Culture.
Du grain à moudre, ce mardi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le déficit de la sécurité sociale va replonger cette année entre 1 et 4 milliards d'euros et demi. 4 milliards et demi d'euros. Voilà ce que dit la commission des comptes. Nous vous expliquerons pourquoi. Nous irons ensuite à l'hôpital Saint-Antoine à Paris où 15 paramédicaux d'urgence sur 19 sont en arrêt maladie. Ils sont exténués. Une nouvelle mobilisation des personnels de l'hôpital public est prévue ce mardi. 12 enfants de djihadistes français ont été rapatriés en France hier. Quelle prise en charge à leur arrivée? Antoine Marette s'est penché pour nous sur la question. Et puis nous reviendrons sur la situation au Burkina Faso qui fait face à des attaques répétées de djihadistes. Au moins 19 corps hier ont été retrouvés dans le nord du pays. Le retour à l'équilibre pour les comptes de la Sécurité sociale devrait donc être officiellement renvoyé à plus tard aujourd'hui. La commission des comptes de la Sécu se réunit ce mardi. Il n'y aura pas l'excédent tant attendu de l'ordre de 100 millions d'euros en plus, non. L'historique retour à l'équilibre a été balayé. Cela fait suite aux mesures d'urgence adoptées en décembre dernier, comme une réponse à la crise des Gilets jaunes, Manuel Ruffez.
Dès janvier, la ministre de la Santé l'a elle-même acté. Le retour à l'équilibre en 2019 est compromis, dit alors Agnès Buzyn, après les annonces présidentielles en pleine crise des Gilets jaunes. Le rapport du Haut Conseil du financement à la protection sociale le chiffre dans la foulée. Il anticipe un déficit en hausse de 3,5 milliards d'euros, bien loin de l'excédent de 100 millions attendus, bien loin même du déficit d'1,2 milliard enregistré en 2018, pourtant le plus faible depuis 2001. Il y a donc les mesures gilets jaunes qui privent la Sécu d'environ 2,5 milliards d'euros de recettes, exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et CSG revue et corrigée pour les petites retraites entre 1 200 et 2 000 euros. Et puis il y a un ralentissement de la croissance qui là aussi devrait peser sur les recettes à hauteur d'1,2 milliard d'euros. Sur cette nouvelle trajectoire et sans modification notable, l'équilibre des comptes n'est plus à l'ordre du jour.
Au chapitre économique toujours, car c'est bien les économies demandées qui engendrent cette colère et cette fatigue, un rassemblement des personnels de l'hôpital public est prévu ce mardi à 11h30 devant le ministère de la Santé à Paris, ainsi que devant plusieurs agences régionales de santé. L'intersyndicale demande plus de moyens pour l'hôpital, tous services confondus. Les personnels ont rejoint la mobilisation des urgences qui sont en grève depuis près de 3 mois maintenant. Les annonces non chiffrées de la ministre Agnès Buzyn la semaine dernière non satisfait personne. À Paris, à l'hôpital Saint-Antoine, la plupart des paramédicaux d'urgence de nuit sont en arrêt maladie depuis samedi pour cause d'épuisement, Véronique Julia.
Tous ces arrêts maladie d'un coup, évidemment, ça fait du bruit. Mais l'épuisement ici, on le vit toute l'année. Et toute l'année, il y a des arrêts maladie pour burn-out, explique Emilio. Il est infirmier à Saint-Antoine.
Il y a une petite mamie qui vous demande de lui mettre le bassin parce qu'elle a urgemment envie d'aller aux toilettes. On est obligé de lui dire, attendez, j'arrive 2 minutes. Le temps d'arriver, la dame s'est fait pipi dessus. C'est hyper dégradant, on se sent inhumain.
Les personnels réclament plus d'effectifs, un coup de pouce salarial, l'arrêt des fermetures de lits. Agnès Buzyn ne répond à rien de tout cela, regrette Emilio.
Son personnel soignant est épuisé, n'en peut plus, et elle nous propose de faire plus d'heures supplémentaires. Ça n'a pas de sens, elle est complètement à côté de la plaque.
Toujours plus de passages aux urgences, trop peu d'effectifs en face. C'est aussi ce que constate Monique. Elle vient quasiment toutes les semaines ici à cause de sa vieille maman de 93 ans.
On les voit tout le temps en train de gesticuler à droite et à gauche. C'est formidable ce qu'ils font, mais moi je ne pourrais pas le faire. C'est très très dur. Il faut vraiment aimer son métier, surtout dans ces conditions.
À l'accueil des urgences sur le Livre d'Or, beaucoup de patients ont laissé des petits mots de soutien. Tenez bon, on est avec vous. Parmi eux, Isabelle, elle compatit, mais accuse aussi la la médecine de ville et les patients eux-mêmes, parfois, de trop compter sur les urgences.
Vous avez quelqu'un qui vient avec un bobo au doigt, un ongle incarné, une connerie, il n'a rien à faire là.
C'est d'ici à Saint-Antoine qu'est parti le mouvement de grève des urgences fin mars. Il concerne désormais plus de 80 services en France.
Les hôpitaux mobilisés donc, alors que le Sénat doit adopter aujourd'hui le projet de loi santé d'Agnès Buzyn. Il prévoit notamment de lutter contre les déserts médicaux. Paris a rapatrié 12 enfants de familles djihadistes françaises arrêtées en Syrie. Remis aux autorités par les Kurdes, ils sont arrivés hier à l'aéroport de Villacoublay. La plupart sont orphelins, très fatigués. Ils étaient retenus dans des camps du Kurdistan syrien. En mars dernier déjà, 5 orphelins ainsi qu'une fillette dont la mère avait été condamnée ont été rapatriés en France. Et l'on sait comment ils avaient été pris en charge, Antoine Marette.
Dès leur retour en France, ces enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont des traumatisés de guerre et sont donc pris en charge de façon sanitaire, médicale et psychologique en dehors de leur famille d'origine. Ils sont placés dans des familles d'accueil spécialement formées ou dans des foyers avec des éducateurs spécialisés. Pendant ce temps, le juge des enfants diligente une enquête sur les personnes qui, dans leur famille restante, seraient susceptibles de les accueillir, grands-parents, tantes ou encore oncles. Maître Marie Dosé est l'avocat des familles françaises dont les enfants sont au Kurdistan syrien.
Dès que ces enfants rentrent en France, on doit les protéger de leur histoire. Ces enfants sont d'abord des enfants qui doivent un jour ou l'autre retrouver une vie normale, aller à l'école et se fondre dans l'anonymat de l'enfance parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc ce qu'il faut lorsqu'ils rentrent, c'est les laisser tranquilles. On va déjà devoir un jour ou l'autre leur expliquer ce qui leur est arrivé. Et donc l'important, c'est de les préserver de cette histoire.
Il reste encore 200 enfants français en Syrie. La France a choisi de les rapatrier au cas par cas. Une troisième vague de retour devrait avoir lieu prochainement.
Un nouveau massacre dans le centre du Mali. Une centaine de personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi. Des maisons incendiées, des animaux abattus. Une attaque qui pourrait s'inscrire dans le conflit qui oppose toujours les communautés Peul et Dogon, éleveurs et agriculteurs. En mars dernier, déjà, plus de 150 Peul avaient été tués. Cela avait entraîné la démission du gouvernement au Mali. Et après le Mali, le Burkina Faso, devenu lui aussi la cible des djihadistes en Afrique de l'Ouest. Les attaques se multiplient à un rythme effrayant. Violence mise en lumière il y a un mois après l'assaut meurtrier lancé pour libérer des otages, dont deux Français. Hier encore, 15 corps ont été découverts dans un village au nord du Burkina. Retour sur la situation avec Claude Guibal.
Pas une semaine désormais sans une attaque. Des violences qui ont commencé en 2015. Après la chute du président Blaise Compaoré, les djihadistes venus du Mali voisin se sont engouffrés dans le chaos né de l'insurrection. Ils se sont principalement implantés dans les zones délaissées par les autorités, zones frontalières en déshérence, aux populations pleines de ressentiment envers l'État central. Après les attaques contre les intérêts occidentaux, les djihadistes au Burkina Faso semblent avoir adopté la stratégie désormais de la division intercommunautaire. À chaque attaque contre une église, contre un village, un cycle de violence qui se répondent. L'attaque de dimanche s'est déroulée à Arbinda, dans le nord du pays, alors que les forces de défense et de sécurité mènent une grande opération antiterroriste dans cette zone. Or, début avril, au même endroit, 62 personnes avaient déjà été tuées lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires. Aujourd'hui, l'État, incapable d'assurer la sécurité, laisse la main aux milices d'autodéfense villageoises qui font régner leurs lois. L'influence de ces milices qui se substituent dans de grandes parts du pays à l'autorité de l'État inquiète les experts qui dénoncent le risque de dérive communautaire, car à chaque attaque, les représailles ne tardent pas. Elles s'exercent principalement envers une communauté, les Peuls, un peuple d'éleveurs nomades majoritairement musulmans, détestés par les agriculteurs majoritaires qui les accusent de détruire leurs terres et les récoltes au passage de leur bétail. Des Peuls que la Katiba du Massina, un des plus puissants groupes djihadistes d'Afrique de l'Ouest, cherchent à instrumentaliser pour qu'ils rejoignent les rangs du djihad.
Claude Guibal, que nous retrouverons à 7h24 tout à l'heure pour son reportage de la rédaction, reportage tourné au Burkina Faso ces derniers jours. La déforestation se poursuit inexorablement sur notre planète. Entre 2010 et 2020, 50 millions d'hectares de forêts auront été détruits, l'équivalent de la surface de l'Espagne. Des forêts rasées pour produire du bois, mais également du soja, de l'huile de palme ou pour faire paître le bétail. Greenpeace International le dénonce ce matin dans un rapport. Il apparaît difficile aujourd'hui de s'approvisionner de façon responsable et la filière soja est notamment en cause, Anne-Laure Barral.
L'Amazonie, le Grand Chaco ou encore le Cerrado, tous ces massifs forestiers d'Amérique du Sud souffrent aujourd'hui de notre appétit pour la viande, selon ce rapport, puisque nous importons du soja produit là-bas pour nourrir principalement nos poulets, explique Cécile Lebas de Greenpeace France.
On n'en est pas forcément conscient aujourd'hui, mais quand on mange du blanc de poulet, on mange aussi le soja qui a servi à nourrir ce poulet. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour produire 100 grammes de blanc de poulet, il faut 109 grammes de soja.
L'Europe importe 33 millions de tonnes de soja par an et impossible de relocaliser toute cette production sur les terres de l'Union européenne, estime la porte-parole de l'ONG.
On a fait des calculs à Greenpeace et on s'est rendu compte que si on voulait produire la totalité du soja dont on a besoin, il faudrait à peu près dédier la superficie de la Belgique et de l'Autriche réunies pour pouvoir produire le soja qui viendrait nourrir ces animaux d'élevage. Donc de toute façon, il faudra passer par une réduction de la consommation de viande et de produits laitiers.
Par exemple, en France, nous consommons aujourd'hui près de 90 kg de viande par an et par habitant en moyenne. L'ONG estime qu'il faudrait atteindre 16 kg en 2050, c'est-à-dire à peu près 45 grammes par jour, pour respecter notamment l'accord de Paris sur le climat.
En bref, maintenant, notons la mort de la militante féministe coréenne Lee Hee-ho. Elle était la veuve de l'ancien président sud-coréen prix Nobel de la paix Kim Dae-jung. Après la mort de son mari, elle avait continué à soutenir les efforts de paix avec Pyongyang en se rendant notamment à plusieurs reprises au nord de la frontière. Lee Hee-ho avait 96 ans. La pluie tombera encore ce mardi sur l'Hexagone, d'abord sur une large partie ouest, seul le nord-est sera épargné ce matin, puis cet après-midi les averses vont toucher tout le pays. Les températures restent assez fraîches avec 11 degrés ce matin à Brest, 14 à Bordeaux et Besançon, 15 à Lille et Lyon, comptez 16 degrés ce matin à Paris et 21 à Nice. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40, l'heure de votre journal des idées. Les récentes dérives des GAFA, Jacques, rappellent que la constitution de monopole représente une menace pour l'économie et pour la société.
Et oui, c'est ce que souligne Nicolas Bavret dans le Figaro Vox. Les GAFA se sont érigés en une hyperpuissance technologique hors de tout contrôle, que ce soit celui de l'État, du droit ou des citoyens. Ils fonctionnent comme une alliance de monopoles qui, par leur taille et leur avance technologique, concentre un formidable pouvoir de marché en quadrillant l'économie numérique. L'industrie numérique a engendré deux monstres face au monopole des GAFAM, s'érigent désormais les bras armés du capitalisme totalitaire chinois, Baidu, Alibaba, etc., alimente un Big Brother digital fondé sur la reconnaissance faciale et le système du crédit social. Ces deux blocs technologiques sont au cœur de la guerre froide qui oppose désormais les États-Unis et la Chine. C'est pourquoi s'il faut introduire de la régulation dans la puissance phénoménale des géants du net et notamment les astreindre à une fiscalité plus juste, l'éditorialiste estime que le rétablissement de la concurrence dans l'industrie numérique ne doit pas être mis au service d'une réglementation paralysante, mais bien de la recherche et de l'innovation face aux défis chinois. Il rappelle qu'un tournant décisif est intervenu à partir de 2016. L'Union européenne, dont le grand marché est vital pour les GAFAM, exclu de la Chine et de l'Inde, a institué le premier régime de protection des données personnelles en mai 2018 et les a lourdement sanctionnés pour la violation des règles de concurrence et les pratiques d'évasion fiscale. Google, cumulant 8,3 milliards d'euros d'amende. Les États-Unis lui ont emboîté le pas. Un accord est intervenu entre le département de la justice et l'autorité de la concurrence, confiant au premier le soin d'enquêter sur Apple et Google, à la seconde la supervision de Facebook et Amazon. Les États du monde entier vont-ils se mettre d'accord sur une grande réforme fiscale pour taxer les entreprises multinationales là où elles réalisent leurs activités et engrangent des profits? C'est la question que pose Marc Vigneault sur le site de l'hebdomadaire Le Point en évoquant la réunion des ministres des Finances du G20 qui s'est tenue ce week-end à Fukuoka, au Japon. Preuve de l'importance du moment, les ONG comme Oxfam expriment beaucoup d'espoir si les gouvernements, je cite, adoptent les mesures nécessaires. Ces négociations pourraient fortement transformer la manière dont toutes les multinationales, et pas seulement les géants du numérique, sont imposées. Un processus qui pourrait sonner le glas. delà des paradis fiscaux et marquer le début d'une ère de plus grande justice fiscale où les pays pauvres seraient en mesure de réclamer leur juste part de recettes fiscales aux multinationales afin de combattre la pauvreté et les inégalités. Parmi les mesures envisagées, un taux d'imposition minimal avec la possibilité de le faire évoluer dans les pays de consommation. Pour la France, la médaille à son revers. Dans le domaine du luxe, par exemple, l'Hexagone voit remonter de juteux profits de ces multinationales qui seraient diminuées en cas d'imposition par les pays consommateurs. Mais ces pertes pourraient être compensées par une meilleure taxation des multinationales implantées sur son territoire, américaine notamment. Le Royaume-Uni soutient quant à lui l'application de ce principe aux seules entreprises du numérique. Or, la numérisation croissante de l'économie a tendance à effacer les frontières entre les activités de son point de vue. Résultat des courses d'ici fin janvier 2020. Si vous voulez tout savoir sur le numérique, la différence entre Internet, l'infrastructure et le web, la toile et le système des réseaux, des liens et des nœuds, voire des hubs qui concentrent un nombre très élevé de liens, je vous recommande le livre de Fabien Tarissant, publié aux éditions Le Pommier sous le titre « Au cœur des réseaux », pour être outillé plutôt qu'instrumentalisé. L'auteur enseigne la science des réseaux, une discipline nouvelle née dans les années 90 de la théorie des graphes, une branche des mathématiques qui s'intéresse aux structures relationnelles. Elle trouve aussi des applications dans le champ des sciences humaines pour étudier comment se structurent les relations entre individus, en particulier ce que le sociologue Marc Granovetter a défini comme la force des liens faibles. Contrairement aux liens forts, familiaux et personnels ou encore de travail, les liens faibles, rencontres de circonstances déterminées par une cause aléatoire, contribuent à élargir le cercle social de ceux qu'ils mettent en contact. Le web l'illustre parfaitement et c'est particulièrement vrai dans les sites de rencontres amoureuses étudiés par trois livres dont Xavier Delaporte rencontre dans les pages idées de l'Obs. Aller au-delà de son cercle de sociabilité sans pour autant s'engager, multiplier les rencontres, le plus souvent éphémères. La toile est le royaume des liens faibles, tout en constituant un réseau dont la solidité et l'étendue se mesurent à la multiplicité de ces liens. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, Hong Kong vent debout contre la loi d'extradition vers la Chine.
C'est ça, un nouveau clou dans le cercueil de Hong Kong, disaient certains des plus d'un million de manifestants dimanche contre un projet de loi d'extradition voulu par l'exécutif hongkongais. Théoriquement, la région administrative spéciale de Hong Kong doit être semi-autonome jusqu'en 2047. C'est le sens de un pays, deux systèmes. Mais les pro-Pékin au pouvoir semblent vouloir aller plus vite, quitte à réveiller peut-être ou faire naître un nationalisme hongkongais. On voit ça avec vous, Jean-Pierre Cabestan. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct depuis Hong Kong. Vous êtes le directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong, chercheur associé à l'Asia Centre et auteur de « Demain la Chine, démocratie ou dictature ». Eh bien, c'est un peu l'alternative de Hong Kong aussi, puisqu'après déjà jeudi 6 juin, une première manifestation rare hein, de environ 3000 juristes. Cette fois, c'était 1,03 million de manifestants selon les organisateurs. C'est un septième de la population dans la rue. En fait, on dit que c'est la plus grande manifestation depuis 1997, la rétrocession. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est exact. Depuis 1997, aucune manifestation n'a rassemblé autant de personnes. En 2003, lorsque les Hongkongais se sont opposés massivement au projet de loi de sécurité nationale qui avait été introduit par le gouvernement, 500 000 de manifestants, 500 000 manifestants étaient descendus dans la rue. Il faut remonter à 1989, au massacre de Tiananmen, pour trouver un chiffre similaire. Alors, en juin 89, environ 1 million de Hongkongais étaient descendus dans la rue. Vous savez que c'était 8 ans avant la rétrocession, et donc les Hongkongais s'inquiétaient de voir Hong Kong revenir dans le giron d'une Chine qui restait hautement autoritaire et répressive.
Oui. Et autre fait sur ces manifestations, c'est qu'elles se sont terminées par quelques heures, alors pas massif, mais quand même devant le Conseil législatif, entre la police et certains des manifestants qui avaient poussé des barrières. Je disais fait nouveau, c'est que les violences ne semblent plus rares lors de ces manifestations en fait.
Eh bien oui, la raison en est la frustration grandissante, notamment parmi la jeunesse. Le gouvernement reste sourd à toute revendication. Le mouvement des parapluies, il y a maintenant 5 ans, à l'automne 2014, a échoué après 79 jours d'occupation d'une partie du centre de Hong Kong. Et là, maintenant, le gouvernement veut imposer cette loi sur l'extradition qui facilitera le transfert de criminels ou de suspects vers la Chine populaire, y compris de gens n'habitant pas Hong Kong, mais passant par Hong Kong. Donc ça concerne également les étrangers qui seraient susceptibles d'avoir commis des crimes ou en Chine continentale. Donc il y a un sentiment de frustration grandissant parmi la jeunesse qui voit dans la désobéissance civile, mais aussi maintenant la violence, une manière de s'exprimer et de résister contre cette emprise grandissante de Pékin.
Alors on va dire un mot de ce projet de loi d'extradition, mais justement, population qui est sortie précisément contre ce projet, c'est ça qui a donné des manifestations aussi massives, où il faut aussi prendre en compte le climat de contestation et les 30 ans du massacre de Tiananmen, sachant qu'à Hong Kong, il y a chaque année des grandes commémorations de ce massacre.
Oui, effectivement, le 30e anniversaire de Tiananmen a joué un rôle, mais je crois que plus que cette commémoration, il y a depuis plusieurs mois, même plusieurs années, une dégradation de la situation à Hong Kong en termes de liberté publique, de liberté politique. Les médias sont de plus en plus à la botte de Pékin. Des entorses ont été infligées, notamment à la liberté de publication avec l'enlèvement d'un nombre de libraires. Certains hommes d'affaires chinois en délicatesse avec la justice en Chine ont été tout simplement enlevés par des sbires envoyés par Pékin. Donc, et on a le sentiment que Carrie Lam, la chef de l'exécutive, parle de plus en plus comme les gens du Parti communiste chinois. Donc elle ne représente de moins en moins les Hongkongais, de plus en plus les autorités de Pékin et Xi Jinping en particulier. Et puis en outre, vous avez un bureau de liaison de Pékin qui est de plus en plus interventionniste dans les affaires de Hong Kong et qui semble gouverner Hong Kong derrière le chef de l'exécutif.
Et alors, cette Carrie Lam, chef de l'exécutif, qui a affirmé n'avoir, je cite, « aucun mandat de Pékin pour promouvoir cette loi qui permettrait l'extradition donc vers un certain nombre de pays avec lesquels Hong Kong n'a pas d'accord d'extradition, donc a fortiori Pékin, de toute personne qui serait suspectée de crime, je crois. Elle a affirmé n'avoir aucun mandat de Pékin. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça vous semble juste d'une part, et sinon, pourquoi est-ce que l'exécutif hongkongais pousserait au rapprochement?
D'abord, Carrie Lam n'a jamais été élue par les Hongkongais. Elle est élue par un comité exécutif qui est à 90% dominé par des représentants de l'establishment pro-Pékin. Donc elle n'a pas été élue démocratiquement. Elle représente beaucoup plus Pékin que la communauté des Hong Kong. La deuxième chose, c'est qu'elle reste inflexible sur cette loi parce que Pékin lui a donné l'ordre de la faire passer et que sur beaucoup d'autres sujets, notamment l'intégration de Hong Kong à la zone de ce qu'on appelle la Greater Bay Area, la zone du delta de la rivière des Perles, est une de ses priorités, voulant finalement transformer Hong Kong en une ville chinoise comme une autre.
Donc ce serait une manière de contourner finalement un pays de système, l'instauration de cette loi d'extradition?
Alors ce serait une manière surtout d'éroder le statut particulier dont Hong Kong bénéficie depuis 1997, dont il devrait jouer jusqu'en 2047. Je pense que un pays de système restera en place, mais son contenu deviendra de plus en plus vide de sens et l'autonomie politique surtout de Hong Kong continuera, à mon avis, malheureusement de perdre de sa valeur.
Et alors vous avez cité cette affaire de libraire ou du milliardaire qui avait disparu puis réapparu en faisant des excuses des libraires critiques en 2015. Parmi les autres pas que pourrait faire Pékin, disons pour grignoter la souveraineté, il y a aussi la question des infrastructures qui a posé question avec l'instauration d'une ligne ferroviaire Hong Kong-Shenzhen fin 2018 et le pont Hong Kong-Macao. C'est à ça vraiment que servent ces infrastructures avant même, disons, la connexion, on pourrait dire, logistique?
Oui, alors ces infrastructures et leur installation ont posé plusieurs problèmes, notamment la présence d'officiers de sécurité des frontières de Chine continentale à Hong Kong même, dans le cœur de Hong Kong, dans la grande gare de TGV de Hong Kong. Le problème pour le pont reliant Hong Kong à Macao et à Zhuhai, c'est qu'il est totalement sous-utilisé et que c'est un investissement massif qui s'avère aujourd'hui non rentable. Donc c'était plutôt une arme politique destinée à intégrer plus encore Hong Kong dans le Guangdong que véritablement un projet économiquement viable. Mais je crois que par-delà ces projets, il y a manifestement une volonté de limiter toute opposition, toute critique du Parti communiste chinois à Hong Kong. Ça a commencé avec le bannissement du parti favorable à l'indépendance de Hong Kong et son démantèlement qui a été opéré grâce à une loi de répression des triades, des mafias, alors qu'il s'agissait d'un microscopique parti politique qui, à mon avis, ne présentait aucune menace à l'égard de Hong Kong et de sa sécurité.
Et puis,
Voilà l'environnement général, d'où cette frustration, d'où cette mobilisation massive des Hongkongais, mais alors vraiment de tous les milieux du territoire qui ont participé dimanche dernier à cette grande marche vers le siège du gouvernement et du Parlement de Hong Kong.
Et alors, 5 ans après la révolte des parapluies, quelles conséquences est-ce que vous verriez à court terme? Est-ce que c'est une crise de légitimité pour cet exécutif qui, effectivement, n'a pas été élu, mais lui-même issu d'une crise de légitimité, on pourrait dire, parce qu'il s'agissait d'une réforme électorale à l'époque, ou alors c'est effectivement le renforcement d'un certain nationalisme hongkongais avec un certain nombre de partis qui sont déjà apparus en 2016.
On est dans une situation de confrontation en fait grandissante entre le gouvernement central et de larges segments de la société hongkongaise. Je pense que aujourd'hui, Xi Jinping ne va pas céder et que donc les choses resteront en l'état. Maintenant, je crois que d'un autre côté, vous avez une capacité de résistance au sein de la société civile hongkongaise qui, si bien qu'elle ne puisse pas imposer une démocratisation du territoire à Pékin, continuera de pouvoir résister à toute emprise qui pourrait contribuer à limiter ses libertés, notamment la liberté de manifester, la liberté de critiquer le Parti communiste et de critiquer le régime de parti unique en Chine.
Et éventuellement l'hymne national aussi, ce sera à suivre dans les prochains jours et demain pour le vote de cette loi d'extradition. On verra si elle passe. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Jean-Pierre Cabestan, directeur du département de sciences politiques de l'Université Baptiste de Hong Kong. On renverra bien sûr à votre livre sur le site des enjeux sur la page de France Culture. Demain, la Chine, démocratie ou dictature, c'est chez Gallimard. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Danser Casa de Mourad Merzouki et Kader Atou à la Grande Halle de la Villette. Mourad Merzouki et Kader Atou se retrouvent pour mettre à l'honneur la ville de Casablanca. Popping, locking, cirque, acrobatie, parcours, new style house ou encore danse contemporaine. Les 8 danseurs aux influences diverses font voyager les techniques hip-hop et racontent, par le mouvement, la justesse de la transmission d'une génération à une autre et l'effervescence artistique de Casablanca. Dansez Casa, du 18 au 22 juin, à la Villette à Paris. Un partenariat France Culture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent « En lisant, en écrivant », une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Ce soir à 18h30, retrouvez Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour « Le serment sur la chute de Rome » et « À son image ». Une rencontre animée par Lucille Como. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'écoute libre pour les matins.
Mais oui, comment m'avez-vous reconnu?
Ils sont présentés par vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors vous vouliez nous dire que Tony Parker prend sa retraite.
Et oui, tous vos journaux l'évoquent aujourd'hui, même ceux qui ne se soucient absolument pas de basket. Après 20 saisons professionnelles, dont 18 aux États-Unis, Tony Parker, le meneur de jeu de 37 ans, a donc décidé de mettre un terme à sa carrière. Et les réactions vis-à-vis de ce départ nous renseignent finalement plus sur l'époque plutôt que sur le basket, un sport auquel on peut s'intéresser ou pas. Alors avouez qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant dans le fait d'admettre sans sourciller qu'une personne prenne sa retraite à 37 ans, alors même que d'ordinaire, je crois que les régimes spéciaux de retraite indigne. Bien sûr, cette retraite précoce se justifie par l'exigence physique de la profession de Tony Parker et précisément, Tony Parker a déjà particulièrement duré. Mais au-delà de ça, il y a le fait que Parker prenne sa retraite Avec une retraite panier, puisqu'il s'agit de basket, les sommes amassées durant sa carrière lui permettent d'entreprendre, une manière là aussi de voir comment la valorisation du travail d'un sportif est sans commune mesure par rapport à la valorisation du travail commun. Alors on connaît les explications, les sommes que les sportifs rapportent, etc. Eh bien je vais en rajouter une autre, qu'aux États-Unis on appelle le « winner take all », autrement dit le gagnant prend tout. Finalement, si l'on s'est si bien habitué à ces inégalités, c'est parce que le principe du gagnant prend tout nous est devenu complètement familier, on l'a complètement intégré, même si l'on n'en connaît pas le nom. Le winner take all, c'est l'idée que les uns prennent tout et que les autres se partagent le reste. L'idée qu'il y a une telle différence entre le premier et le second que cette différence est impossible à combler. Tony Parker, c'est le winner take all. Ce n'est pas tellement qu'il a surplombé le basket pendant toutes ces années, c'est le fait qu'au terme de cette carrière, un immense écart l'a gratifié, lui, plutôt que le second. Second, d'ailleurs, dont tous les ignorants du basket, dont je fais partie, ignorent absolument le nom. Le winner take all est une conséquence de ce que certains appellent aussi l'effet Matthieu, du nom des évangiles selon saint Matthieu, où il est dit qu'à ceux qui ont tout, tout sera donné au surplus. Tony Parker a marqué le haut du panier. Et la morale du basket, c'est que le panier aujourd'hui a un haut, mais n'a plus de bas.